France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, c'est la marche des sciences.
Adèle Alexonera, numéro 10, vaccinée au bras gauche par 4 piqûres du bras du numéro 6, vaccinée au bras droit par 4 piqûres et le vaccin du bouton surnuméraire de l'épaule du numéro 5, lui-même vacciné par 6 piqûres aux deux bras du vacciné numéro 6.
La scène se passe au tout début du 19e siècle à Paris. Dans un hospice dédié à la vaccine, des expérimentations faites sur des enfants trouvés, des corps tests, autrement dit des cobayes, pour faire avancer la science. Aujourd'hui, des cobayes continuent de servir la science, mais les protocoles sont plus encadrés, même si les risques ne sont pas écartés. Pour preuve, l'accident survenu à Rennes en janvier dernier, lors d'essais cliniques concernant une molécule BIA-10-2474, mise au point par le laboratoire portugais Bial, est conçue pour soigner la maladie de Parkinson. Un volontaire du nom de Romuald témoignait de ce statut de cobaye sur les antennes de France Inter le 16 janvier dernier.
On se considère comme un cobaye, tout le personnel médical est assez attentif, mais ça n'enlève pas le fait qu'on est là avec des tubes dans les bras parfois, avec du sang prélevé parfois toutes les heures, et voilà, ça nous ramène à cette condition de cobaye, c'est évident.
La motivation de Romuald, c'est avant tout l'argent. Pour un test de 3 semaines et demie d'un médicament pour traiter Alzheimer, il a touché 4000 euros sans perdre de vue le risque qu'il prenait.
Il n'y a rien qui est caché, tout est expliqué. Les médecins qui gèrent les études médicales sont là pour répondre à n'importe quelle question. Mais c'est vrai qu'en début d'année, je me suis posé la question d'en refaire une. Là, ça m'a un peu refroidi pour le moment.
Eh oui, le spectre du danger freine les envies, bien sûr. Le 17 janvier 2016, l'essai clinique pratiqué à Rennes tournait au drame. Sur 90 volontaires, l'un d'eux décédait, 5 autres étaient hospitalisés, dont 4 victimes de troubles neurologiques. Alors, l'expérimentation humaine a laissé des traces, bien sûr, dans l'histoire des sciences, depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Aussi, à l'occasion de la parution de l'article signé Jean-Baptiste Fressoz dans la revue Médecine Science du mois de mai 2016, et publié chez EDP Sciences, intitulé « Les bébés éprouvettes de 1800, enfants trouvés et expérimentation humaine de la vaccination en France ». Eh bien, à l'occasion de cette parution, nous allons remonter le temps et nous intéresser aux prémices de ces expériences menées sur les enfants avec la découverte des premiers vaccins et interroger aussi le temps présent. Et avec nous, pour entrer dans cette histoire à la fois des avancées médicales, mais aussi du risque, j'ai le plaisir d'accueillir en direct sur France Culture l'historien des sciences Jean-Baptiste Fressoz, enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales. Il est l'auteur du livre « L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique » édité au Seuil. Il sera avec nous par téléphone depuis Bruxelles. Et puis Thierry Lefebvre, en studio, il est directeur d'études du Master Journalisme, Culture et Communication Scientifique de l'Université Paris. Paris Diderot. Il est également directeur de la revue d'histoire de la pharmacie et auteur avec Cécile Rénal du livre « Médicaments, polémiques et vieilles querelles », un livre tout juste paru aux éditions Belin. Et donc, eh bien, cette première partie d'émission sera émaillée, vous l'avez compris, d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales et puis de textes lus en direct par le comédien Régis Royer. Et puis en seconde partie d'émission vers 16h45, en partenariat avec les cahiers de Science et Vie, dont le dernier numéro porte sur les guerres de religion, de l'intolérance à la laïcité, c'est Valentine Zuber, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, qui sera en studio, en direct également et avec nous, pour porter le regard sur cette question de la laïcité. Elle est l'auteur notamment du livre « Le culte des droits de l'homme » paru chez Gallimard. Mais tout de suite, expérimentation et cobayes humains.
Ça va ? D'accord. Voilà, donc on est dans une pièce climatisée, c'est l'unité de soins intensifs, divisée en deux parties, une vingtaine de lits d'unité de soins intensifs où nous réalisons tous les protocoles de phase 1 réelle, c'est-à-dire tous les produits qui sont administrés pour la première fois à un être humain. un protocole, c'est une montée de dose. On va faire un premier groupe de 12 sujets à une dose. Si les 12 sujets supportent bien, on va passer à une dose supérieure, et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on voit les premiers effets indésirables apparaître. Bon, comme c'est progressif, en général, les premiers effets indésirables sont mineurs. Des maux de tête, des troubles de la pression artérielle, des douleurs abdominales, quelquefois des vomissements. On n'a jamais eu d'événements indésirables massifs et brutaux d'un seul coup à la première dose.
Oui, c'était la parole du docteur Chassard dans Grand Angle, l'émission de France Culture, diffusée le 10 février 2009 et qui s'intéressait justement aux cobayes de la recherche. Bonjour Jean-Baptiste Fressoze.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'histoire des évolutions et du risque. Et donc vous êtes intéressé aux périodes précédentes, c'est-à-dire au 18e, 19e siècle. En tout cas, on va en parler aujourd'hui et à l'occasion de cet article que vous faites paraître, qui est paru déjà dans la revue Médecine Science du mois de mai 2016. Bonjour Thierry Lefebvre.
Bonjour.
Vous êtes donc historien spécialiste de l'histoire de la pharmacie. Alors là, on entendait ce médecin parler de protocole. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un protocole, les expériences sont très encadrées. Des indemnisations d'ailleurs sont prévues, je crois de 100 à 200 euros jusqu'à 4500 euros par an. On n'a pas le droit de faire plus d'un essai tous les 3 mois, je crois, et de gagner d'ailleurs plus de 4500 euros par an. Et il y a, je crois, des phases très spécifiques aujourd'hui.
Oui. Alors, les essais cliniques sont parfaitement définis et encadrés, ce qui ne signifie pas qu'il ne peut pas y avoir un accident comme on l'a vu à Rennes. Ils sont très encadrés en France, en pratique depuis 1988. Donc ça, c'est une loi fondamentale pour la santé publique qui s'appelle la loi Hurier-Seruskla, qui a fait rentrer en quelque sorte la France dans la modernité des essais cliniques. Et donc, en pratique, pour essayer de résumer plus brièvement possible pour des auditeurs qui ne seraient pas au courant de cette chose, dans l'industrie pharmaceutique, alors c'est moins le cas pour les vaccins dont on va parler, en particulier de la vaccine tout à l'heure, mais on définit une molécule qu'on va appeler principe actif, donc on la recherche par toutes les techniques possibles et imaginables. L'informatique joue un rôle important, mais ça peut être des trouvailles faites dans la forêt équatoriale ou voilà des pistes comme ça qui conduisent à des produits qui ont l'air intéressants, qui peuvent interagir avec le corps humain dans une maladie particulière. Et donc on va commencer à modéliser un petit peu tout ça. Donc on va travailler d'abord sur ordinateur, on va voir si la molécule peut s'agréger à un récepteur, etc. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Toutes les techniques sont utilisées, ça prend du temps. Dès ce moment-là, on a déposé un brevet pour cette molécule, parce que sinon, un concurrent peut très bien trouver la même molécule et déposer le brevet de son côté, et vous avez perdu de toute façon l'exclusivité.
Et beaucoup d'argent.
On parlera de la question de l'argent qui est évidemment fondamentale. Ensuite, quand on est assez satisfait des propriétés, des affaires indésirables, qu'on estime négligeable de ce médicament, on va le tester sur les animaux. Donc on a des modèles animaux qui sont variables en fonction des produits en question, et ces essais sont obligatoires. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de moyens tout à fait pertinents pour éviter ce passage obligatoire.
Science avance à ce niveau-là, et notamment pour répondre aussi à ce souci de la société civile de plus en plus, de la souffrance animale.
Bien sûr, voilà. Donc il y a des recherches, et c'est très bien de ce point de vue-là. Et puis ensuite, on rentre dans les essais cliniques humains, à proprement parler, qui s'étagent en 3 niveaux, ce qu'on appelle les essais de phase 1. Phase 1, c'est ce qui s'est passé à Rennes, en pratique. Donc, c'est la molécule qui a été mise en forme, dans sa forme galénique, qui a été, alors je ne sais plus si c'était injecté ou avalé, peu importe, et qui est évaluée auprès de volontaires sains. Donc, la personne qu'on a entendue tout à l'heure, c'était un volontaire qui faisait ça, visiblement d'après la tonalité, pour l'argent.
Oui, rémunéré. Alors voilà. Souvent des étudiants, des personnes au chômage, on retrouve des personnes en situation un petit peu plus fragile, en tout cas qui ont un intérêt pécunier.
Voilà. Ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi des gens qui ont des patients dans leur famille qui sont concernés par tel type de maladie, Parkinson, et qui se portent volontaires pour faire avancer la recherche. Il y en a beaucoup. Et qui n'y vont pas pour l'argent, ceux-là. Mais effectivement, il faut des effectifs relativement relativement important. Et donc, on va avoir un mélange un petit peu des deux. Donc, on essaie et puis on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'effet indésirable à telle dose, on va dire.
Mais la phase 1 est la plus risquée. Je crois, non ?
Pas forcément, parce que...
On cherche les effets indésirables, en tout cas.
Oui, voilà, c'est des petits effectifs, hein, surtout.
D'accord.
Voilà, et ensuite, on va avoir deux phases successives. Une phase qui va être testée sur des patients, des vrais patients qui souffrent de telle ou telle maladie, et où on va essayer d'établir la bonne dose qui va être administrée ensuite dans ce qu'on va appeler, mais on en parlera tout à l'heure, un essai en double aveugle qui va comparer ce qu'on appelle le placebo ou un produit de référence qui est déjà sur le marché avec la molécule à tester.
Et la phase 3, donc, c'est comparer le traitement...
Soit avec le placebo, soit avec un produit de référence qui existe. Et au-delà de ça, il y a du temps qui s'écoule, évidemment. Au-delà de ça, tous ces essais vont être présentés à l'institution qui est censée réglementer tout ça, qui est donc la NSM, l'Agence nationale de... santé du médicament, qui en principe donne ou ne donne pas son accord en fonction des résultats obtenus, et ensuite il va falloir négocier le prix, ce qui fait que globalement c'est 10 ans à 12 ans, et un brevet c'est sur 25 ans maximum, donc il faut l'amortir.
D'accord.
Ensuite.
L'Agence nationale de sécurité du médicament et les comités de protection aussi personnes, les comités d'éthique qui sont sollicités. Voilà, on a bien dressé le portrait, en tout cas dépeint ce tableau des protocoles aujourd'hui. En 1800, Jean-Baptiste Pressoz, on en est bien loin quand même. Hein. Vous nous livrez dans votre article une histoire de ces expériences donc menées en France sur de jeunes enfants et des expériences donc qui se placent dans un contexte spécifique aussi des progrès de la science, de la médecine. C'est dans le cadre de la vaccination. Donc les débuts de la mise en place des vaccins peuvent être associés au début d'expérimentation humaine.
Oui, je pense que les tout débuts de la vaccination antivariolique, c'est vraiment un moment important de mise en place de l'expérimentation humaine, disons de la normalisation de l'expérimentation humaine. Au XVIIIe siècle, donc avant la vaccination, qui apparaît dans les années 1800, au XVIIIe siècle, l'expérimentation en médecine est très rare. Sur des corps vivants, elle n'a pas de légitimité. Elle n'est pas acceptée, elle n'est pas vraiment acceptable.
Et en général, les médecins expérimentent sur eux-mêmes, il est arrivé qu'on fasse quelques expérimentations sur des condamnés à mort, je crois.
Exactement, sur les condamnés à mort, mais ça veut dire que on est en fait dans un cadre éthique qui ressemble beaucoup à celui de la dissection, puisque c'est des personnes qui juridiquement sont déjà mortes. Donc effectivement, dans ce cas-là, l'expérimentation est autorisée, ça peut être une sorte de circonstance aggravante, si vous voulez, une manière de rendre la peine plus infamante que d'offrir le corps ensuite à un médecin qui peut le par exemple, disséquer en public. La dissection, sous l'Ancien Régime, elle n'est pas forcément mal vue. Par exemple, on sait que les aristocrates florentins avaient tendance à se faire disséquer pour vérifier s'il n'y avait pas, par exemple, des maladies qui pourraient être problématiques pour leur famille ou leur descendance. Donc, le problème, c'est plutôt la dissection publique. Donner son corps à la faculté de médecine, ça, c'était quelque chose de très infamant, d'être disséqué en public.
Oui.
Et ça peut être une sorte de peine aggravante, si vous voulez, pour un condamné à mort. Mais quand on est dans ce cadre-là, où finalement le droit d'expérimenter repose sur le droit de condamner à mort, et donc sur finalement le droit de punir, forcément le nombre de sujets expérimentaux est très faible.
Et donc là,
très peu de sujets expérimentaux.
Exactement.
Et pour les médecins, c'est difficile de prouver quoi que ce soit, parce que vu que les causalités en médecine sont assez fluctuantes, avec peu de sujet, c'est difficile de prouver quelque chose.
Alors, et finalement, dans cette histoire, alors le début, c'est cette mise en place des vaccins, en fait, tout part de la variole, donc la vaccination qui a donné lieu à des contestations, on va le voir, mais c'est la technique d'inoculation. Bien évidemment, une société civile qui prend peur quand même, qui se pose des questions. Je vous propose d'écouter l'un des textes que vous nous avez proposé, que vous avez exhumé dans toutes ces archives au fil des années. Il s'agit de la lettre de Madame Roland à un de ses amis, le docteur Dubosc, en 1788.
Nous sommes à nous décider pour la faire inoculer ou non. C'est une véritable affaire qui me préoccupe et m'affecte. Je me déciderai aisément pour des indifférents, car il y a beaucoup de probabilités en faveur. Mais je me reprocherai toute ma vie d'avoir exposé mon enfant aux exceptions à ce bien. Et j'aimerais mieux que la nature l'eût tué s'il venait à l'être par moi. D'ailleurs, je crains les vices d'un sang étranger qui peuvent se communiquer par l'inoculation, et je n'ai pas encore entendu de réponse satisfaisante à cette objection. Trouvez-moi donc, si vous le pouvez, de bonnes raisons à me déterminer.
Jean-Baptiste Fressoz, donc à ce moment-là, on inocule dans des, j'allais dire une société un peu bourgeoise, où on le fait parce que on estime que bon, il y a peut-être un intérêt ou médical pour les enfants. J'ai envie de dire, est-ce que c'est presque du bouche à oreille pour le moment?
Alors, on parle de deux technologies différentes. Là, on parle de l'inoculation de la variole. Ça consiste à s'injecter le pus de la variole, donc de la maladie humaine, hein, quand on est en bonne santé, quand l'épidémie semble bénigne, pour éviter de l'avoir quand on est affaibli ou quand l'épidémie est plus dangereuse. Et les médecins avaient remarqué qu'on avait la petite vérole qu'une seule fois. Donc, une fois qu'on avait eu cette maladie-là par inoculation, on devait être immunisé contre la variole naturelle. Donc ça, c'est vraiment l'inoculation de la variole. Ce qui est intéressant, c'est de voir que cette technologie a échoué. Dans le sens où, au XVIIIe siècle, très très peu de Français se font inoculer. Donc là, vous avez cité le témoignage de Madame Roland, donc une aristocrate, qui explique à quel point les parents étaient extrêmement précautionneux à dire, voilà, le gros problème, c'est que si mon enfant meurt de l'inoculation, je me sentirai coupable. Alors que si c'est la petite vérole naturelle, donc l'épidémie qui l'enlève, c'est la nature qui a suivi son cours et j'ai pas la responsabilité directe de sa mort. Donc ça, c'était vraiment un frein fondamental à l'inoculation de la petite vérole. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que les vaccinateurs des années 1800...
Oui.
Donc eux travaillent sur une autre technologie à partir d'une autre substance qui est une maladie des vaches. Hein, dans vaccine, on entend cette racine latine de vaca, hein, la vache. C'est une maladie pustuleuse qui provient au départ des mamelles des vaches qu'on implante, enfin, qu'on injecte à des sujets humains. Et c'est le docteur Edward Jenner, un docteur anglais qui en 1798 avait remarqué que cette maladie des vaches immunisait les humains contre la variole.
Mmh.
Donc les médecins français mais européens en général... En 1800, ils sont dans la situation suivante. Ils savent que si on dit que la vaccine est dangereuse, qu'il y a un risque, si vous voulez, on va être dans la même configuration qu'avec l'inoculation variolique du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les parents ne feront pas vacciner leurs enfants.
Ah oui.
Et en fait, ces premiers vaccinateurs sont souvent d'anciens inoculateurs qui étaient confrontés jour après jour à cette difficulté. Et donc, dans les années 1800, il y a quelque chose de très différent qui se passe, c'est que les États, et l'État français en particulier, estiment que avec la vaccination, là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se passe. On va pouvoir immuniser l'ensemble de la population contre la variole. On va extirper la variole du territoire national, pour reprendre les mots de l'époque. Et ce que les vaccinateurs vont faire, c'est redéfinir le vaccin, quelque chose, enfin on ne sait pas ce que c'est une maladie nouvelle. C'est un virus, un pus qui est apparu comme ça dans le monde médical en 1800, on n'a aucune idée de ce que c'est. Ils vont définir le vaccin comme un être parfaitement bénin, comme une opération parfaitement bénigne, qui est absolument jamais sans aucun danger. Hein. On peut vacciner à n'importe quel âge, on peut vacciner n'importe qui dans n'importe quelle condition. Les vaccinateurs insistent beaucoup là-dessus en 1800. Et en août, la vaccination préserve à jamais de la petite vérole. C'est-à-dire une fois que vous êtes vacciné, vous êtes tranquille, vous êtes immunisé à vie.
Alors, ils insistent là-dessus. Je voudrais juste, avant d'aller plus loin, Jean-Baptiste Fressoz, dans cette histoire, faire entendre quand même un autre témoignage. Alors, je reviens un petit peu en arrière, parce que c'est vrai que malgré tout, cette société civile, elle garde en mémoire ce qui s'est passé justement au moment de l'inoculation de la variole. Il y a eu quand même des cas dramatiques. Je vous propose d'écouter tout de suite le récit du marquis de la Perrière, hein, qu'on prenne bien la mesure quand même de ce qui se passe. C'est pas bénin dans le geste même médical. Voici ce qu'il raconte. Donc, c'était le 8 janvier 1765, quand il a fait inoculé ses deux fils par le docteur Acton.
Monsieur A, avec des ciseaux, leur coupa la chair au gras du coude. Il leur fit une entaille à chaque bras, en enlevant la peau et un morceau de chair jusqu'au sang. Et il mit sur chaque trou un fil de mousseline trempé dans le pus de la petite vérole. Une croûte entière d'un grain de petite vérole. Un petit morceau de mousseline trempé et imbibé du dit pus. Un peu de coton lardé comme un petit pois et aussi imbibé du dit pus. Et par-dessus tout cela, un plumasseau de charpie sèche et un emplâtre. Cette opération fut si douloureuse que mon fils aîné s'en évanouit et le petit jetait les hauts cris.
Jean-Baptiste Fressoz, donc ça c'était pour l'inoculation à la vérole, donc ça s'était passé le 8 janvier 1765. Alors il faut préciser pour les auditeurs que l'aîné va s'en sortir mais va devenir presque sourd et le deuxième enfant va mourir. C'est vrai que cette société civile, bien évidemment, elle garde ça, j'imagine, en tête, et ces scènes aussi qui sont quand même des scènes assez terrifiantes.
En fait, ce qui est frappant, c'est que au moment de l'inoculation de la variole, le monde, c'est-à-dire les mondains, les aristocrates, les grands bourgeois, ont une capacité à collecter de l'information médicale sur des cas de variole, d'inoculation variolique qui se passe mal, sur des accidents, sur des récidives aussi, des gens qui sont inoculés puis qui ont quand même la petite vérole. Ils ont la capacité de collecter, de diffuser cette information, de la partager à travers des correspondances médicales, à travers des discussions de salon. Par exemple, les inoculés donnaient une fête après leur inoculation où toutes les connaissances étaient invitées et pouvaient voir sur le corps de l'individu les effets de l'inoculation. Donc il y avait une production profane et aristocratique, si vous voulez, d'informations médicales. Et c'est dans cette masse-là d'informations que les candidats à l'inoculation essayaient de piocher des indices sur la valeur de tel inoculateur, la manière de faire l'inoculation, etc. Bon. Donc on a ce mode-là de production, de savoir sur le risque, si vous voulez, qui est très très présent à la fin du XVIIIe siècle encore. Et c'est contre ce mode-là de production de connaissances médicales que les vaccinateurs vont devoir travailler. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est une fois encore dire que la vaccine va être parfaitement sûre. Et ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est justement ce bouche-à-oreille, cette opinion mondaine qui se crée autour des faits médicaux. Et ce qu'ils veulent, c'est vraiment avoir le monopole de la définition du risque à propos de la vaccine.
Oui,
donc, c'est trop important pour que ça soit encore... Dans les conversations mondaines qu'on définit, si vous voulez, la valeur d'un remède.
Et en même temps, ils appréhendent très clairement, hein, dans les textes que vous avez retrouvés, ils appréhendent très clairement le fait que la vaccine tombe dans l'oubli, ou en tout cas perde son efficacité parce que, justement, on pourrait en manquer. Écoutons tout de suite le docteur Husson, cheville ouvrière du comité parisien, dans une lettre écrite le 6 janvier 1801 à Akaki.
J'appréhende que la vaccine ne vienne à tomber d'ici à quelque temps. Les parents qui font vacciner leurs enfants, en général, ne croient pas fortement à son efficacité. D'ailleurs, des personnes qui ont beaucoup d'ascendants, bien loin de la préconiser, la décrient. On est si peu reconnaissant dans cette ville que nous n'avons pas reçu 12 francs de tout ce que nous avons fait. Du train que cela va, jamais nos frais ne seront couverts.
Et je vous propose d'enchaîner tout de suite sur un deuxième document qui va nous permettre d'aller plus loin. C'est justement le texte des membres du comité médical de la société formée à Paris pour l'inoculation de la vaccine. Un document, une lettre adressée au ministère de l'Intérieur, Ventose en 8.
Le comité ne peut se passer de l'intermédiaire du gouvernement et c'est avec la confiance la plus entière qu'il s'adresse à vous pour l'obtenir. Les essais qu'il se propose de faire doivent avoir lieu sur 50 enfants. L'éloignement que le peuple montre encore pour l'inoculation de la vaccine ne permet point d'espérer que l'on puisse y trouver parmi les citoyens. C'est donc dans les hospices, seuls, que l'on pourra se procurer le nombre nécessaire pour les essais.
Jean-Baptiste Fressoz, donc finalement, ce sont ces enfants des hospices, ces enfants trouvés, qui vont permettre d'entretenir le feu de la vaccine ?
Tout à fait. Ce qui est frappant au début de l'histoire de la vaccination, c'est à quel point les médecins sont toujours à court de sujets, expérimentaux. Pourquoi ? Parce que la vaccine, c'est donc une maladie qui vient des vaches, on a dû l'importer d'Angleterre, on a fait transmettre ce pus-là d'Angleterre, c'est quelque chose de très précieux, de très rare, qui se transmet difficilement. Et donc, si on n'est pas en train de vacciner, la vaccine disparaît. D'accord ? C'est pas une maladie qui se transmet naturellement. Et donc, il faut en permanence organiser des chaînes vaccinales. Il faut prendre le pus d'un enfant, le reporter sur un autre enfant, reprendre ce pus, crever cette pustule, récupérer cette pustule, l'implanter sur un autre enfant, etc., etc. Et ne jamais s'arrêter. Surtout ne jamais s'arrêter. Si on s'arrête, la vaccine disparaît. Bon. Au début, les parents sont assez réticents à aller laisser leurs enfants se vacciner, sachant qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est ce pus. Vu ce que je viens de vous décrire, vous voyez qu'il y a des risques de transmission de maladies qui sont pas négligeables. Si un enfant a la syphilis, par exemple, dans cette chaîne vaccinale, il y a un risque de transmission de la syphilis à tous les autres enfants de la chaîne vaccinale. Donc les dangers sont réels. Il faut bien voir que... On a tendance à imaginer des anti-vaccinateurs comme des gens assez irrationnels, mais dans les années 1800, la vaccination telle qu'elle se pratique n'a rien à voir avec la vaccination telle qu'elle se fera à la fin du 19e siècle, et c'était pour de bonnes raisons qu'on s'opposait à la vaccination, et que les gens n'avaient pas envie de se faire vacciner, parce que, tout simplement, le risque était tout à fait réel. Et donc, finalement, le seul ensemble de populations sur lesquelles on peut propager cette vaccination, l'entretenir, en fait, ça va être les enfants trouvés.
Et oui, parce qu'il n'y a pas de famille, il n'y a personne pour s'opposer à la pratique. Et donc, du coup, est-ce qu'on peut dire, selon les textes que vous avez eus entre les mains, Jean-Baptiste Fressos, qu'on a grandement abusé justement de ces jeunes enfants? Je crois qu'on a même fait des expériences sur des prématurés.
Oui. Alors, ce qui est frappant, c'est que sur ces enfants trouvés, j'ai envie de dire quasiment tout est permis. C'est-à-dire, on fait des expériences qui n'ont aucun intérêt pour l'enfant. On va par exemple se servir de certains enfants tout simplement pour tester quelle maladie a eu un autre enfant. Par exemple, si je suis un bourgeois parisien, mon enfant a été vacciné et puis il s'avère qu'il a quelque chose qui ressemble furieusement à une variole. On va prendre un pus de la maladie de cet enfant et on va l'injecter sur un enfant trouvé, voir ce que ça donne. Est-ce que ça va donner une variole? Est-ce que ça va donner autre chose? Donc ça, c'est, vous voyez, quelque chose qui n'a absolument aucun intérêt pour la santé de l'enfant, et pour autant, c'est quand même pratiqué de manière tout à fait courante, et ça choque personne. C'est quasiment ça le plus surprenant, c'est que les parents, ça se fait au vu et au su de tous, quoi. Donc sur les enfants trouvés, oui, il y a vraiment des choses qu'on pourrait dire tout à fait excessives et scandaleuses et ignobles, hein, qui ont été faites. Alors une fois qu'on a dit ça, faut voir quand même qu'il y avait pas mal, il y avait des oppositions, des médecins s'opposaient, par exemple les bonnes sœurs qui s'occupaient des hospices d'enfants trouvés se plaignaient souvent en disant voilà, c'est des expériences qu'on fait sur les pauvres, hein, pour reprendre leur expression. Et donc ce qu'il a fallu faire, c'est justifier ces expérimentations. Et ça s'est fait surtout à travers le discours de la philanthropie et de l'utilitarisme. C'est de dire finalement, les enfants trouvés, c'est une charge considérable sur le budget de la nation. Il y a 60 000 enfants trouvés dans les années 1800 en France. Ils sont entretenus aux frais de l'État.
Oui, donc quelque part, c'est leur quote-part, quoi, c'est ça?
Ouais, bah, il faut les rentabiliser, il faut rentabiliser cet investissement. Au même moment, il y a une loi qui est passée pour dire que les enfants trouvés peuvent être donnés à la marine nationale, et servir de mousse sur les bateaux. Donc vous voyez qu'on est vraiment dans une logique utilitariste de rentabilisation des secours publics, et finalement, dire que les enfants trouvés vont servir à propager le vaccin et à transmettre le vaccin à l'ensemble de la population française, c'est dire voilà, ils ont une fonction sociale, et c'est comme ça finalement que ça va être principalement justifié. L'autre justification, qui est importante parce qu'on est encore dans ce régime-là, c'est de dire les vaccinations, enfin les expériences seront licites tant qu'on estime qu'il y a un gain thérapeutique pour ces enfants-là. Et c'est vrai, vu que les médecins étaient convaincus, alors c'est pas pour le cas pour toutes les expérimentations, mais pour simplement les vaccinations, de dire, vu qu'il y a un gain thérapeutique à se faire vacciner, on peut vacciner les enfants trouvés, même quand on ne sait à peu près rien de la vaccine.
Alors, en sachant que le pouvoir a joué son rôle, hein, parce que quand le comité a fait cette demande d'appui au ministère de l'Intérieur, alors à l'époque c'était le ministre Lucien Bonaparte qui lui avait refusé d'autoriser l'expérimentation sur les enfants des hospices, mais Jean-Antoine Chaptal, hein, nommé au ministère de l'Intérieur le 7 novembre 1800, lui permet tout à fait d'expérimenter le procédé sur les enfants, donc ils deviennent un terrain d'essai, bien évidemment. Donc voilà, Thierry Lefebvre, peut-être sur ces questions-là. En tout cas, la vaccination a toujours donné lieu à des débats, à des contestations.
Oui, alors là,
à des abus. Aujourd'hui, pour nous, ce sont des abus. Oui. C'est vrai que peut-être que dans la société de l'époque, c'était ces avancées de la science.
Alors, effectivement, il faut essayer de se replonger dans l'époque, bien concevoir que, par exemple, la notion qu'on a de l'enfance, que l'on doit protéger, n'existe pas à cette époque. La naissance de l'enfant, telle qu'on l'entend, est beaucoup plus tardive. Je dirais début du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e. Donc l'enfant est finalement un être humain comme un autre, surtout effectivement s'il n'y a pas d'autorité paternelle et maternelle autour, donc un enfant trouvé. Il y a autre chose qui se greffe et que Jean-Baptiste Fressos explique bien dans son article, c'est une lutte entre l'autorité de l'État, représentée par Chaptal en particulier, et l'autorité paternelle, qui est la seule à pouvoir décider pour l'enfant, et il y a quelque chose qui s'opère à ce niveau-là et qui existe, je dirais, toujours un peu dans certains milieux nos jours. Donc ça, c'est un aspect. Et il, par ailleurs, également, Jean-Baptiste Fressos a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre solution pour la vaccination que d'aller de pustule en pustule, donc de patient en patient, dans la mesure où on ne pouvait pas conserver in vitro, comme on le fait actuellement, des ampoules ou que sais-je, le médicament, puisque c'est quand même quelque part un médicament. Alors, c'est un médicament préventif, bien évidemment, mais par rapport à une maladie qui est probablement la maladie la plus terrible que connaît, pas simplement d'ailleurs l'Occident à cette époque-là, puisqu'on estime quand même le nombre de morts au cours du XVIIIe siècle qui nous concerne à plusieurs centaines de millions de morts pour l'Europe. Bon, en même temps, il faut relativiser ces chiffres, parce qu'on a évidemment, on n'a pas la comptabilité. Donc, c'est une maladie absolument terrible. Et pour essayer de faire passer donc cette vaccination, on va s'appuyer sur la coercition. Ça, c'est évident, qui va conduire à terme, à partir de 1902, à l'obligation de vaccination contre la variole. Voilà.
En France, en tout cas, 1902, effectivement, c'est la date. Bon, c'est vrai que ces enfants trouvés vont assurer la pérennité du vaccin. Mais en même temps, ça nous fait penser un petit peu à l'instrumentalisation biologique hein, de la pauvreté. Je vous propose d'ailleurs d'écouter un document très intéressant choisi par Anaï Morales dans les fonds de l'INA. Il s'agit d'un reportage de Sébastien Farcy et c'était le 30 mars 2012. Donc, c'est pas très vieux. C'était en Inde. C'était pour le 6-7 de France Inter.
Krishna Gelot souffrait d'un asthme chronique, mais ce tailleur modeste de 61 ans ne pouvait pas payer pour les soins. Un spécialiste de l'hôpital public de la ville lui a alors proposé une solution, comme le raconte son fils, Pradip.
Le docteur Bajpai a assuré à mon père que ce nouveau médicament venait des États-Unis et que cela le soignerait complètement. Ce traitement était gratuit, il fallait juste qu'il signe un document, et c'est ce qu'il a fait.
Krishna Gelot est décédé en janvier dernier dans des conditions douteuses alors qu'il venait à peine d'apprendre que le médicament qu'il prenait était en fait en cours d'expérimentation pour le deuxième plus grand laboratoire allemand Boehringer Ingelheim. Un rapport public a prouvé que 33 patients d'essais cliniques de cette ville d'Indore étaient morts pendant ou après les essais et que des centaines n'avaient jamais donné leur consentement formel pour y participer. Le marché des essais cliniques a doublé en moins de 3 ans en Inde du fait de l'arrivée des grands laboratoires étrangers qui peuvent les réaliser ici pour 2 fois moins cher qu'en France ou aux États-Unis.
One, two, three, four, five, coffees. No, no, he still hasn't called me. 6, 7, 8, 9 whiskeys, I know he won't. I check my watch, my phone. Why won't you prove me wrong? I check my pulse, wondering which one is gone. 'Cause I've got a weekender, baby. A weekender, baby. A weekender, baby. One, two, three, four, five rings. You used to be so quick to pick up. 6, 7, 8, 9 knocks. I know you're there. It seems too easy to trick me all week. And then comes Friday, he's off to play King of the Streets. 'Cause I've got a weekender, baby, who from Friday noon. Weekender, baby, to Sunday. Weekender, baby, would rather roam than be at home with me.
Il est 16h33, vous êtes en direct sur France Culture et on écoute le choix d'Alexandra Malka, Louis Dougalon, pardon, on ne connaît qu'elle, bien évidemment, c'est magnifique, c'est son dernier album, Weekender Baby. Et c'est la suite de la Marche des Sciences sur France Culture, bébé cobaye, enfant de la science, l'expérimentation humaine en France au 19e et après. C'est le sujet du jour en compagnie de 2 historiens des sciences, Jean-Baptiste Fressoz qui signe un article dans la revue Médecine Science de mai 2016, article publié chez EDP Sciences et qui s'intitule « Les bébés éprouvettes de 1800, enfants trouvés et expérimentation humaine de la vaccination en France ». Il est aussi l'auteur, je le rappelle, du livre « L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique » édité au Seuil, et il est enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales. Et puis avec nous, Thierry Lefebvre, directeur d'études du Master Journalisme, Culture et Communication Scientifique à l'Université Paris Diderot, directeur de la revue d'histoire de la pharmacie, et son dernier livre, commis avec Cécile Rénal, du livre donc le médicament polémique et vieille querelle, c'est le titre du livre tout juste paru aux éditions Belin. Jean-Baptiste Fressoz, donc voilà, j'ai choisi de vous faire écouter ce document d'archives, c'est vrai, pour rebondir un peu sur ce thème de l'instrumentalisation biologique de la pauvreté. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que dans des pays comme l'Inde, comme la Chine, il y a ces pratiques aussi qui se font, et beaucoup de laboratoires aussi, ils trouvent leur compte en allant faire les essais cliniques là-bas. Donc à l'époque, instrumentalisation biologique de la pauvreté en 1800, on n'en prenait pas conscience, on n'en parlait pas comme ça, j'imagine.
C'était pas tant la question de la pauvreté qu'une fois encore l'utilité pour la patrie de ses enfants. C'était vraiment plutôt comme ça que c'était perçu. Il n'y avait pas, par exemple, l'idée de payer quelqu'un pour qu'il se soumette à une expérimentation. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas encore à cette époque. Sinon, si on avance un petit peu dans l'histoire, il y a quelques grandes dates peut-être qu'il faut rappeler. Mm-hmm. À la fin du 19e siècle, émerge l'idée qu'il faut qu'il y ait le consentement du patient pour l'expérimentation, mais globalement ce qui se passe, c'est quand même que jusque dans les années 50-60, y compris en Europe, aux États-Unis, dans les hôpitaux, dans les grands services hospitaliers, l'expérimentation clinique est relativement peu régulée, malgré la déclaration de Nuremberg après les procès contre les docteurs nazis, où il y avait eu déjà une revendication à un cadre éthique un peu plus strict. L'expérimentation clinique est quand même relativement peu régulée. C'est seulement dans les années 60-70 qu'on commence à avoir des procès, des plaintes et des choses un peu plus sérieuses, que l'expérimentation humaine va se déplacer dans les pays pauvres, comme le document d'archives l'indique. Donc il faut un petit peu avoir ce tableau-là pour comprendre la situation actuelle, je pense.
Thierry Lefebvre.
Ah oui, tout à fait. Donc c'est ce qui est décrit en 1800 va perdurer pendant des décennies et des décennies. On a des multitudes de cas de médecins, en général hospitaliers, qui vont se permettre des actes comme par exemple des greffes de tumeurs cancéreuses pour voir si effectivement ça a fait un effet en quelque sorte. Donc on va tester comme ça, sans aucune retenue, sans ce fameux consentement libre et éclairé qui va être revendiqué à partir du début du XXe siècle et qui va surtout devenir la norme obligatoire, c'est-à-dire que par exemple tous les patients les volontaires qui ont été inclus dans l'essai de Rennes ont signé forcément ces papiers dans lesquels ils donnaient leur consentement libre et éclairé, et j'espère, pour l'instant on n'a pas d'informations hyper précises, mais que toutes ces informations étaient bien clairement écrites et qu'il fallait les lire jusqu'en bas. C'est pas comme un contrat pour une machine à laver, évidemment, où on lit pas tout. Là, on a tout intérêt à tout regarder pour bien détecter la difficulté. Et donc, effectivement, la grande date, celle qui va commencer à faire basculer les mentalités, c'est celle du code de Nuremberg, qui est liée donc aux essais qu'on ne peut même pas qualifier de cliniques des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Ou alors là, on a tout fait et n'importe quoi, les pires horreurs. Et donc, à la suite de ça, l'humanité a compris qu'il fallait quand même essayer de réagir et de contrôler un petit peu tout ça.
Eh bien, je vous propose d'écouter un témoignage laissé par le docteur Morgenstern. C'était dans Interactu du 14 février 1982.
Ces enfants provenaient de divers pays d'Europe. Ils avaient été arrêtés, par exemple pour ma cousine, pour le petit Georges-André Cohn, ils avaient été arrêtés en France, ils ont été conduits à Drancy, et puis ensuite ils ont été envoyés à Auschwitz. À Auschwitz, ces enfants étaient conservés dans un bloc à part, destiné à être des cobayes. C'est le docteur Mengele qui les avait choisis. Le docteur Mengele, qui connaissait le docteur Heissmeier, le docteur Heissmeier était un médecin SS qui voulait absolument poursuivre des recherches sur la tuberculose. Il prétendait, d'après ses théories, que les Juifs, étant de race inférieure, résistaient beaucoup moins à la maladie. Alors, il a donc fait ses expériences sur des adultes, essentiellement des prisonniers de guerre soviétiques, et puis, le mercredi, lorsqu'il arrivait au camp de Neuengamme, le docteur Hessmeyer se faisait servir les cadavres fraîchement pendus afin de faire ses dissections sur les adultes. Pour les petits-enfants, il a entretenu ses expériences pendant à peu près 8 mois. Il a provoqué des chancres tuberculeux très importants. Il a pris des photos des enfants au cours des expériences. Et nous avons actuellement ces photos qui ont été retrouvées. Et nous avons pu retrouver nos enfants d'ailleurs. Et à l'issue de toutes ces expériences, eh bien, les enfants ont été pendus. Il ne fallait pas que quelqu'un puisse raconter ce qui s'était passé.
Thierry Lefebvre.
Oui, là, ce n'est qu'un extrait de ce qui se fera les camps d'extermination. Il s'est fait les pires horaires.
Alors, sur les adultes et sur tout corps disponible.
Tout corps disponible, avec les idées les plus farfelues possibles et imaginables. Oui. Donc, il va y avoir une convergence après la Seconde Guerre mondiale de ce choc causé par la Seconde Guerre mondiale et les pratiques d'un pays qui était considéré quand même comme l'un des pays les plus brillants dans le domaine de la médecine et le plus avancé. Et puis, le fait qu'on va commencer à faire des essais cliniques de plus en plus sérieux. Parce qu'en 1946, on va tester la streptomycine. Streptomycine qui est l'un des premiers antibiotiques et qui va se révéler efficace, dans une certaine mesure, mais quand même efficace, sur la tuberculose pulmonaire. Et c'est à ce moment-là que les Anglais et que les Américains ont testé, séparément d'ailleurs, suivant des protocoles qui esquissent un petit peu ce qui est maintenant la norme et ce qui doit être respecté. Donc on va tester avec ces notions qui sont des mots que les auditeurs doivent entendre de temps en temps, qui est la notion de randomisation, c'est-à-dire que on attribue des traitements, soit le placebo, donc celui qui n'a aucun effet en théorie, soit le médicament qu'on teste, on l'attribue de manière aléatoire par tirage au sort, et donc on parle de randomisation, ce qui fait qu'on ne donne pas des groupes spécifiques, ce qui pourrait biaiser évidemment le résultat, et surtout la notion qui commence à émerger, même si on la voyait dans les années antérieures, les décennies antérieures, de double aveugle. C'est-à-dire que ni l'expérimentateur, ni le patient n'est au courant de ce qu'il y a dans le médicament à proprement. Il ne sait même pas si c'est un médicament. Ça peut être très bien un placebo. Donc personne ne sait, ce qui évite des biais, évidemment, liés à la subjectivité des uns et des autres, qui ferait que ça ne serait pas très scientifique. Donc c'est à ce moment-là qu'on arrive très tranquillement à une médecine scientifique, une médecine expérimentale, telle que l'avait prôné bien avant Claude Bernard, le siècle précédent. Mais ça va mettre quand même du temps. Hein. Je peux juste citer un petit exemple. C'est en France, donc en 1953, un petit laboratoire va lancer un produit qui s'appelle le Stalinon, produit à base d'étain, qui est testé sur 8 personnes. Et par chance, les 8 personnes ne meurent pas, il n'y a pas de problème, et donc on le commercialise absolument immédiatement, sans essai clinique au sens plein du terme. Et conséquence de tout ça, un nombre incalculable d'encéphalites et une centaine de morts dans les premières semaines de sa commercialisation. C'est à ce moment-là qu'on interdit évidemment le Stalinon, ce qui est la moindre des choses, et puis qu'on... Bon, on va dire, entre guillemets, une première loi qui va faire évoluer un petit peu cet aspect de la santé publique, c'est la loi de 59, où on va exiger quand même des normes beaucoup plus importantes, mais il faudra attendre 78, si je me souviens bien, pour que l'État français impose des essais cliniques de qualité pour qu'il y ait commercialisation d'un médicament après autorisation de mise sur le marché.
Jean-Baptiste Fressoze, pour revenir en 1800, moi, en lisant votre article, je me suis dit, mais finalement, il y a quand même peut-être les prémices d'un protocole, ou en tout cas, certains qui se posent la question. Vous citez le médecin allemand Marcus Herz, et qui posait cette question-là, justement. Il s'interrogeait sur la vaccination en masse et sur le fait de se projeter dans la durée. Lui, si j'ai bien lu votre article, parlait de 10 ans, je crois, ou en tout cas, dire
qu'il... Il disait qu'il faudra attendre au moins 30 ans pour pouvoir imaginer généraliser à l'ensemble de de la population à la vaccination, parce qu'il faut pouvoir anticiper les conséquences de la vaccination, non pas seulement sur les enfants, mais sur la progéniture de ces enfants. Donc on a des, oui, beaucoup d'arguments dans les années 1800 qui font furieusement penser au principe de précaution, à cette idée que vacciner comme ça d'un seul coup l'essentiel, enfin essayer de vacciner toute la population européenne, c'est une action tellement incroyable et démesurée qu'il faut prendre énormément de précautions avant de généraliser ce remède. De la même manière, il y avait des critiques assez aiguës sur des expérimentations qui sont faites, non pas simplement en termes éthiques, mais en termes statistiques et ce qu'on peut en tirer en termes rationnels. Par exemple, pour prouver l'efficacité de la vaccine, on vaccinait un enfant et ensuite on lui donnait la variole, on inoculait de la variole. Mmh. Il y avait des médecins qui disaient le problème, c'est que inoculer la variole, c'est pas la même chose qu'avoir la variole naturelle, ça rentre pas par les mêmes voies, c'est pas les voies respiratoires, par exemple. Et puis, surtout, le problème essentiel, c'est qu'on connaît... Le problème, c'est la durée de la préservation que donne la vaccination.
Mais oui, c'est ça.
Et là, il pointait un problème qui était tout à fait réel, c'est qu'au début de la vaccination, il n'y avait pas de revaccination. Donc, les premiers vaccinés ont tous eu la variole, en quelque sorte. Ça a été un échec patent, en fait, de ce point de vue-là.
En tout cas, on peut dire que quand même, à cette époque-là, il y a effectivement des voix discordantes ou des personnes qui s'interrogent sur ça, sur ce que j'appellerais, moi, les prémices d'un protocole, dans une société où, malgré tout, les médias étaient muselés. Hein, faut vous le préciser bien, le ministère de l'Intérieur avait ordonné que tout article de presse soit visé par le comité central de vaccine. C'est quand même une société qui essaie de bien tenir les rênes, si je peux dire.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les vaccinateurs, justement, voulaient éviter le même problème qu'il y avait eu avec l'inoculation, c'est-à-dire une divulgation générale des accidents, et l'information médicale sur la vaccination est censurée, très clairement, dans les années 1800.
Thierry Lefebvre.
Tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, effectivement. Alors quand même, je voudrais mettre en perspective ces expériences qui sont mal contrôlées et pour lesquelles, comme l'a dit Jean-Baptiste Frézos, il n'y a pas de principe de précaution et pour lequel, dans l'ensemble, il n'y a pas ce qu'on appelle aujourd'hui la pharmacovigilance, c'est-à-dire la phase 4, c'est-à-dire on commercialise, c'était le cas en quelque sorte, c'était gratuit, mais bon, on mettait le médicament sur le marché, et ensuite on surveille sur quelques décennies les effets indésirables, etc., on les collecte pour éventuellement interdire à un moment donné tel ou tel médicament, qu'on fait Mediator par exemple. Et donc, même si ça a pris beaucoup plus de temps que ce qui aurait dû être. Voilà. Mais pour en revenir à ces expériences, il faut les mettre, et notre collègue le met très bien en perspective dans son article, dans le contexte de l'époque où on ne sait pas grand-chose, où c'est très empirique de toute façon, où il n'y a effectivement pas de scientificité dans le sens qu'on entend aujourd'hui, médecine basée sur les preuves. Et puis, il faut le mettre en perspective avec un dernier point qui est le fait que quand même, au terme de tout ce processus qui va prendre ô combien de décennies. Mmh. En 1977, le dernier patient variolique a été recensé. Donc, il n'y a plus de variole sur la Terre. Elle a été éradiquée. Et ça, c'est un point absolument stupéfiant. Moi, ça me sidère qu'on en soit arrivé là. Ça causait des centaines de millions de morts par siècle. Et donc, ça a été totalement éradiqué dans tous les pays. Pour l'instant, on n'a pas vu ressurgir depuis le moment où l'OMS, donc en 84, a décrété que c'était définitivement disparu. Mmh. On n'a pas vu ressurgir la variole.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Merci Jean-Baptiste Frézos. Je rappelle le titre de votre article, retrouvé dans la revue Médecine Science du mois de mai, publié chez EDP Science. Les bébés éprouvés de 1800, enfants trouvés, expérimentation humaine de la vaccination en France. Et puis votre livre, L'Apocalypse joyeuse, une histoire du risque technologique, édité au Seuil. Et Thierry Lefebvre, donc le livre, le dernier, écrit avec Cécile Rénal, Médicaments, polémique et vieille querelle, tout juste paru aux éditions Belin. Et puis merci à Régis Royer. Vous restez avec nous, bien sûr, puisque le sujet prochain... on va traiter de laïcité et forcément cela vous concerne.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, en partenariat aujourd'hui avec les Cahiers de Sciences et Vie, dont le dernier numéro traite des guerres de religion, de l'intolérance à la laïcité. Un numéro coordonné par Jean-François Mondeau et dans lequel on retrouve l'interview de Valentine Zuber, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteure du livre Le culte des droits de l'homme, un livre paru chez Gallimard, spécialiste donc de la laïcité. Bonjour Valentine Zuber.
Bonjour.
La laïcité, alors, succède à la tolérance du siècle des Lumières. C'est vrai qu'on le présente souvent ainsi. En même temps, cette laïcité, elle est quand même le résultat d'un long processus historique amorcé en France. On peut dire à partir de l'édit de Nantes, c'est ça, de 1598?
Oui, je crois que l'édit de Nantes est le premier texte légal qui dissocie l'appartenance religieuse des individus de l'appartenance nationale. Et à partir de cet édit, on peut considérer qu'on peut être de quelque religion que ce soit, de quelque confession que ce soit, et être un sujet fidèle du roi, puis ensuite un citoyen égal à tous les autres.
Alors bon, c'est un édit qui va être évoqué hein, par Louis XIV en 1685, donc la route est quand même jalonnée d'embûches et un petit peu longue hein, par rapport à cette laïcité. Est-ce qu'on peut dire que la France a offert un milieu très favorable à l'expression de la laïcité ?
Alors, je ne sais pas si on peut...
Historiquement, voilà, oui, comment ça, oui, selon la façon dont ça s'est mis en place.
La France a commencé ce processus avant les autres pays, certainement, pour des raisons historiques qui sont très bien expliquées d'ailleurs dans ce numéro de Sciences et Vie. Oui,
exact.
Très beau numéro. Oui. Pour des raisons historiques, il a paru nécessaire de déminer les problèmes religieux. D'abord des problèmes interconfessionnels, vous les avez rappelés, entre protestants et catholiques. On a eu de violentes guerres de religion pendant plus d'un demi-siècle, et puis des problèmes d'intolérance civile, puisque Louis XIV, comme vous l'avez rappelé aussi, a considéré qu'il n'existait plus de protestants en France, et donc a révoqué l'édit de Nantes,
oui.
Et donc considéré que toute la population était catholique, ce qui n'était pas vrai. Il y avait des protestants, mais il y avait aussi des juifs.
Et du coup, des protestants ont fui le pays, hein, clairement.
Il y a eu des protestants qui ont fui, mais il y en a aussi beaucoup qui sont restés et qui ont vécu un régime d'intolérance et surtout de non-existence civile. Et donc ça, c'est à la fin du XVIIIe siècle, ça pose beaucoup de problèmes aux philosophes et ça pose aussi des problèmes aux politiques. Et il faut rappeler que c'est Louis XVI qui, très tardivement, en 1787, a permis la réintroduction des protestants dans l'unité nationale, puisqu'il leur réoctroie un état civil.
Mais alors le terme en lui-même, laïcité, on le voit émerger vraiment avec le sens peut-être qu'on lui donne aujourd'hui, à quel moment ?
Alors très tardivement, à la fin du XIXe siècle, mais ça ne veut pas dire que la réalité même du principe de laïcité n'existe pas avant. Oui. Et l'un des premiers actes, en-delà de cet édit de tolérance de Louis XVI, c'est évidemment l'instauration de l'état civil laïque, c'est-à-dire qu'au lieu de devoir se faire recenser sa naissance, son mariage, son décès auprès du curé qui fait officier d'état civil, mais enfin qui n'en est pas un, hein, véritablement, eh bien on crée un état civil laïque et donc le même pour tous et qui signe l'égalité des personnes, quelle que soit leur confession.
Alors la laïcité, on peut dire que c'est un principe universel qui prend place dans tous les pays qui ont fait de la liberté de conscience un pilier, hein, ça c'est ce qu'on peut dire aujourd'hui. Par rapport à la France, il y a toujours une date hein, qui est marquante dans l'histoire ou qui tout de suite revient dans les conversations dès qu'on parle de laïcité et de religion, c'est la fameuse loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État.
Alors, d'abord, c'est la séparation des églises et
de l'État,
parce qu'il y avait quatre cultes reconnus par l'État et subventionnés par l'État depuis le concordat napoléonien. Et deuxièmement, cette loi ne comporte pas le terme de laïcité, ni dans son intitulé, ni même dans le texte lui-même. Mais on en a fait le texte fondateur de la laïcité républicaine, de la laïcité telle que nous l'entendons parfois avec une pointe de vanité sous l'idée que la laïcité serait une exception française. Or, ce n'est pas la laïcité qui est une exception française, mais c'est plutôt ce processus politique de séparation, de divorce complet entre le religieux et le politique.
Et alors en même temps, une incompréhension aussi peut-être de cette loi, parce que avec cette loi, on a souvent l'impression que le religieux est définitivement cantonné à la sphère privée.
Oui, mais alors, on ne lit pas bien la loi, et ce qui est incroyable, c'est que c'est dit dès l'article premier de la loi de 1905, donc un article de principe, qui dit que l'État ne doit pas du tout nier les religions, bien au contraire, il les garantit, il garantit leur liberté d'expression dans l'espace public, et garantit la liberté de conscience de tous les citoyens. Donc, bien au contraire, l'État est garant de la possibilité de l'expression religieuse dans l'espace public.
Alors aujourd'hui, c'est vrai que la laïcité est un mot qui revient souvent hein, dans les discours, les débats et dans la société actuelle. De quel point est-ce que le principe de laïcité pèse et finalement, de quelle façon est-ce que la laïcité est attaquée aujourd'hui ?
Alors, je voudrais revenir à l'Observatoire de la laïcité a sorti son dernier rapport annuel et Jean-Louis Bianco, qui en est donc qui le préside, a dit aux personnes qui le liraient et puis aux décideurs, mais aussi aux journalistes, de bien comprendre que la laïcité n'est pas le remède à tous les maux de la société française. Et c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on a l'impression que le débat sur la laïcité récurrent depuis une trentaine d'années prend forme. Donc la laïcité, elle est nécessaire effectivement parce que nous vivons dans une société de plus en plus plurielle et pas seulement d'un point de vue religieux, mais aussi d'un point de vue convictionnel, d'un point de vue ethnique, de tout ce qu'on veut. Et donc la laïcité, c'est le garant, la possibilité de la coexistence de ces différences, de toutes ces différences dans un espace commun. Et cela veut simplement dire que l'État et ceux qui portent la voix de l'État, c'est-à-dire les agents du service public, doivent s'abstenir de tout jugement, doivent s'abstenir de tout affichage religieux, mais pas seulement religieux, convictionnel, politique, afin de ne pas faire de discrimination envers les citoyens qui sont en face d'eux.
Et donc ça pose cette question hein, de la sphère privée et de la sphère publique. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est passé aussi de l'anticléricalisme du début du XXe siècle à la peur de l'islam, hein, dans un contexte de terrorisme voilà, exacerbé aujourd'hui. Est-ce que vous craignez, vous, Valentine Zuber, justement, que ça joue sur cette place de la laïcité ou que ça pêche peut-être par rapport à la compréhension véritablement de ce qu'est la laïcité, ce qu'elle devrait être peut-être ?
Oui, alors, en fait, pour cela, j'ai une explication qui est à la fois historique et sociologique. Historique, la laïcité s'est construite dans un affrontement terrible avec l'Église catholique, entre l'État et l'Église catholique, qui avaient les mêmes ambitions de gouverner la société. Or, elle souffre encore de cet affrontement qui a eu lieu à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et donc, il reste dans les courants laïcs un fort ressenti antireligieux. Et c'est ce fort ressenti antireligieux qui est passé progressivement ou brutalement, je ne sais pas, après dans les années 80, du catholicisme vers l'islam, vers l'expression religieuse qui montait en visibilité et qui a choqué ces anticléricaux avec la visibilisation des signes religieux dans l'espace public.
Alors c'est vrai que c'est une question délicate parce que cette montée aussi des extrémismes accroît la peur. Certainement qu'il n'y a pas tout ne peut pas être permis ou possiblement visible dans l'espace public. D'ailleurs, il y a les textes, hein, il y a la loi. Finalement, il y a la laïcité philosophique, idéologique, il y a la laïcité juridique et normative. Donc dans les textes, je crois que la laïcité est déterminée de cette façon-là. C'est un ensemble de règles juridiques qui organisent la coexistence de tous en garantissant la liberté de chacun sous la protection d'un État neutre philosophiquement parlant. Et puis bien évidemment, la liberté de l'un commence là où s'arrête l'autre. Enfin, oui, en tout cas, il y a quand même aussi cette notion de respect des autres.
Ah bah bien entendu. De toute façon, dans un état de droit, toute liberté a forcément une limite. Et cette limite, en France, elle est très claire, c'est soit la loi, soit l'ordre public. Et donc, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi dans l'espace public. Mais en revanche, on ne peut pas non plus interdire n'importe quoi dans l'espace public.
Merci Valentine Zuber. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur toute cette histoire longue hein, et en même temps sur la laïcité aujourd'hui, je renvoie donc au cahier de Sciences et Vie sur les guerres de religion de l'intolérance à la laïcité, coordonné par Jean-François Mondeau, et puis votre livre Le culte des droits de l'homme, paru chez Gallimard, parce que vous êtes spécialiste de la laïcité et donc directrice de recherche à l'École des hautes études en sciences sociales. Informations et liens à retrouver sur le site internet de l'émission franceculture.fr, rubrique La marche des sciences, que vous pouvez réécouter, télécharger et nous suivre sur Twitter sur Facebook. Et c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet, Anaïs Morales pour les archives et Régis Royer pour la lecture des textes. À la réalisation, Alexandra Malka. À la technique, Élise Leu. Et la semaine prochaine, Alan Turing sera au cœur de nos préoccupations à l'occasion de la sortie d'un livre très particulier. 23 auteurs écrivent une lettre à Turing et le font revivre dans notre monde d'aujourd'hui. Nous serons avec Jean-Marc Lévy-Leblond et Nazim Fates. Et puis demain, n'oubliez pas le rendez-vous Culture Science à 16h. Michel Albergantier, Sciences Publiques. Avec cette question posée, la bataille du nucléaire aura-t-elle lieu en France? Et dans un instant, à 17h, suite de vos programmes avec Mélanie Chalandon. Bonne fin de journée.